Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, les filets de la foi.
Qui est propice à développer notre foi, à faire grandir notre foi. Et pour ce faire, nous allons lire dans l'évangile de Luc un récit que nous connaissons bien. Au chapitre 5, s'il vous plaît, évangile de Luc, chapitre 1er. Et nous allons tirer quelques leçons de cette rencontre que Jésus avec, on peut le dire, avec ses premiers disciples, et ça va être marqué par une expérience très marquante et aussi un appel au service. Donc, évangile, je le rappelle, évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er, je relis le texte tout simplement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent. Et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Voilà pour ce contact à nouveau avec le message de l'Évangile. Et s'il y avait peut-être un titre à donner à notre réflexion ce soir, eh bien peut-être pourrions-nous l'appeler « les filets de la foi ». Vous savez qu'un filet, c'est fait pour ramasser quelque chose. Enfin, en l'occurrence, c'est principalement des poissons. Et nous allons nous mettre à l'école du Maître, nous mettre à l'école de Jésus, qui va nous apprendre la bonne manière ou la bonne façon de jeter nos filets pour qu'ils ne reviennent pas à vide. Et il ne s'agit pas seulement d'un espace limité comme le lac de Génézareth, ou quand même on pourrait peut-être penser à l'océan, à la mer autour de nous, mais il s'agit tout simplement eh bien, de jeter nos filets dans ce monde invisible qu'est le ciel, le royaume de Dieu. Parce que figurez-vous, il y a beaucoup à retirer. Et je voudrais simplement un petit peu stimuler votre curiosité et votre foi pour vous dire qu'il y a des trésors dans le ciel qui nous sont réservés, mais c'est à nous d'aller tout simplement dans ce geste d'aller chercher, d'aller jeter nos filets et de prendre ce que Dieu a mis en réserve pour chacun d'entre nous. Il y a quelques vérités à retenir au travers de ce simple récit que nous trouvons dans Luc exclusivement. La première chose, première vérité que j'aimerais partager avec vous, et on va donner des détails d'ici quelques instants, c'est que les expériences de la vie ou les expériences dans la vie, aussi banales soient-elles, eh bien sont faites pour nous amener à de plus grandes réalisations. Il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, eh bien on sera fidèles dans les grandes. Et un apprenti, avant de devenir un maître, eh bien il commence à s'exercer dans les petites choses. Et je crois que ça commence comme ça. Comme tout l'enseignement des principes du royaume de Dieu, c'est que nous sommes exercés dans souvent les petits faits, les choses banales, les choses qui nous sont tellement familières. Et ensuite, eh bien, Dieu va nous conduire, parce qu'il y a toujours un but à tout, c'est qu'il va nous conduire, il va nous mener à de plus grandes réalisations. Vous l'avez lu avec moi, Pierre dans l'instant est pêcheur de poissons. Vous savez ce que Jésus lui dit ? Tu seras un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'âmes. Et c'est aussi le but que Dieu s'est assigné pour chacun d'entre nous. Nous allons découvrir cet aspect des choses dans quelques instants. La deuxième leçon, la deuxième vérité que nous pouvons tirer de notre récit, c'est que Dieu parfois nous conduit à quitter notre sécurité, c'est-à-dire nos rivages de paix, nos rivages qui nous rassurent, parce que tant qu'on est sur le rivage, eh bien on ne craint rien, la terre c'est notre domaine, c'est notre habitat, on peut se dire que nous sommes en sécurité, parce que voilà, nous sommes avant tout des terriens, hein. Et quelquefois, Dieu nous pousse un petit peu plus loin, il nous dit, eh bien voilà, maintenant tu vas quitter les rivages, et moi je vais te conduire en pleine eau. Et en pleine eau, si vous permettez, j'ajoute, en pleine foi, dans la plénitude de la foi, alors tu vas jeter aussi tes filets, et là tu vas trouver. Tu vas trouver des trésors. Non pas de poissons, parce que c'est une illustration, mais tu vas trouver des trésors que tu as mis en réserve. Dans le ciel, nous l'avons dit, mais tu vas les trouver aussi, et bien là, tout autour de toi, parce que c'est ainsi que Dieu veut te bénir, en t'amenant à faire des expériences surnaturelles et miraculeuses. Nous allons partir en pleine eau d'ici quelques instants. Troisième leçon, elle est positive, mais je la présente sous cette forme. On ne pourra jamais faire l'expérience du miracle, du surnaturel, du miraculeux, du doigt de Dieu, qui dépasse notre entendement et notre compréhension, si nous ne sommes pas prêts à dire ce soir, à l'écoute de sa parole, à l'audition de ce qu'il a à nous communiquer, à nous dire, si nous ne sommes pas prêts à dire tout simplement, mais Seigneur, parce que c'est toi qui le dis, eh bien, je jetterai les filets. En d'autres termes, je vais t'obéir. Parce que s'il y a une chose qui caractérise la foi, que Dieu agrée, c'est de croire en lui et d'obéir à ce que nous croyons, c'est-à-dire à sa parole. Alors on va prendre dans le détail maintenant eh bien, ce texte que nous avons lu ensemble. Il s'agit d'une parole, c'est la parole d'un homme qui s'appelle Simon. On le connaît davantage sous une autre appellation, c'est-à-dire Pierre, Simon-Pierre. Et voilà ce que Pierre va dire à Jésus. Il va répondre à une question que le maître lui pose. Il va lui dire, mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Jésus venait de lui dire, eh bien voilà, maintenant avance en pleine eau, parce que je veux te bénir. Je veux te montrer que je suis le Tout-Puissant, que tu peux mettre ta confiance pleine et entière en moi, et tu vas avoir des surprises. Parce que quand on met sa confiance en Dieu, on n'est pas au bout de nos surprises. On en sait quelque chose les uns et les autres pour avoir eh bien, touché du doigt, grandement ou petitement, eh bien, ce que Dieu est capable de faire pour tout simplement exaucer nos prières. Et nous voyons que c'est avec une grande lassitude que Pierre dit ces paroles, sans rien prendre. Nous touchons le désappointement d'un homme qui est quelque part contrarié, il est déçu. Parce que figurez-vous que Pierre, c'est un homme du lac, c'est un homme de la mer, C'est un homme qui a passé toute son enfance, toute sa vie, à être eh bien là, en contact avec cette nature, et particulièrement en exerçant une profession qui l'amenait eh bien, tous les jours, toutes les nuits, à aller à la pêche. Il était pêcheur de poissons. Mais il va se reprendre, Pierre, et il va dire ceci, « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vous fais remarquer que Jésus lui avait dit précédemment, « Jetez vos filets. » C'est au pluriel. Pierre comprend, « Je jetterai le filet, mais nous en reparlerons d'ici quelques instants. » Et en quelque sorte, on peut toujours dire que Pierre a manqué de foi, il a été un petit peu timoré dans cette affaire, mais on va faire quand même la démonstration qu'il a cette foi dans l'invisible, et ce qu'il entend de Jésus, néanmoins, va créer une stimulation à l'intérieur de lui-même. Pour lui, c'est impossible. Les pêcheurs pêchent la nuit, c'est certainement le moment le plus propice. L'histoire qui nous est racontée dans Luc se passe peut-être au lever du jour, au petit matin, et on ne va plus à la pêche à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Donc, on va voir un petit peu le déroulement de la foi, comment Pierre grandit dans sa foi. Nous allons d'abord voir un peu l'application de cette foi que j'appellerais tout naturellement évangélique, parce qu'elle est issue de ces récits. Donc la foi évangélique aux possibilités infinies qui reposent sur ce que Dieu dit. Beaucoup de gens déclament « Moi, j'ai foi en Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois à l'existence de Dieu. » C'est une chose. C'est déjà un premier pas. Mais vous savez où nous conduit le message biblique, le message évangélique, c'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais que ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Et c'est sur cette parole-là que nous pouvons véritablement marcher, comme Pierre le fera plus tard, sur les eaux, sans couler. Sans finalement eh bien, sombrer. Donc, il faut le remettre en valeur. Ce qui est important et ce que nous enseigne la Bible, l'Évangile en particulier, Jésus notamment, c'est cette attention que l'homme doit porter à ce que Dieu dit. Et vous connaissez naturellement cette parole fameuse de l'apôtre Paul, qui l'écrira en lettres de feu que nous avons dans l'Épître aux Romains, et il n'y a pas d'autre moyen. Tous les prédicateurs l'affirment, il n'y a pas d'autre moyen. Jésus nous le confirme d'une manière absolue, c'est que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, vient de la parole de Christ. Alors Pierre exprime deux paroles contradictoires et opposées naturellement. La première, c'est le doute et le découragement, où là nous touchons les limites des capacités humaines. Écoutez, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Nous n'avons rien pu prendre en poisson. Sans rien, nous sommes venus sans rien, Seigneur. Et tu me demandes tout à nouveau eh bien, de mettre ma barque à l'eau, de prendre quelques filets et puis d'aller jeter finalement ces ustensiles dans la mer. Et qu'est-ce que l'on va faire? C'est le jour, c'est plus l'heure d'aller chercher du poisson. Donc ça, c'est la première réaction de Pierre. Et voilà la deuxième, qui est un véritable miracle en soi, c'est que Pierre est devant l'évidence, il est devant le visible, invisible et une vérité criante, c'est que finalement, eh bien, ils ont passé toute la nuit, ils sont revenus harassés, fatigués, déconcertés, déçus, et rien ne s'est passé. Et Jésus va prendre le contre-pied, et c'est comme ça que souvent Dieu nous convainc. C'est que ses pensées ne sont pas les nôtres. Et quelquefois, il nous prend, il nous attire sur un chemin qui est contraire à notre raison et à notre raisonnement, à notre logique et à nos déductions. On ne pêche pas le jour. Enfin, dans le cas qui nous intéresse, c'est comme ça. Et la deuxième vérité qui apparaît, c'est que il y a un sursaut chez Pierre, un sursaut de confiance qui indique la source de toute solution. Les solutions pour Pierre dans le cas présent, mais les solutions pour tous les hommes, c'est-à-dire, il l'affirme, et il a bien compris, il dira, mais sur ta parole, néanmoins, Seigneur, cependant, il peut y avoir les réalités du visible qui sont criantes, qui disent que finalement c'est l'évidence, il n'y a rien à faire, mais puisque toi tu l'as dit. Et vous entendrez par là que Pierre et Jésus se connaissent à peine à ce moment-là. Pierre va faire confiance à un parfait inconnu. Quelqu'un qui vous aborde dans la rue et qui vous dit tu vas vers ceci, tu vas vers cela, je ne sais pas comment vous allez réagir. Donc il y a dans la parole de Jésus quelque chose qui est plus que la parole des hommes. Et il dira, mais sur ta parole est l'acte naturellement de foi de celui qui croit, c'est-à-dire l'obéissance. Il dit, mais puisque c'est toi qui l'as dit, bien maintenant je vais obéir et je vais jeter le filet. Ça, c'est le pas de la foi. Je poursuis en disant cela, c'est que le problème de Pierre est un type de problème que nous avons à résoudre d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, chacun dans notre vie. Nous ne sommes peut-être pas amenés à jeter nos filets ici ou là, pas de manière comme cela est décrit dans notre texte, mais d'une façon ou d'une autre, nous avons à jeter un ou plusieurs filets concernant des problèmes qui nous concernent personnellement. Ce peut être une affaire de santé. Ce peut être un gros problème qui touche à notre vie intérieure. Ce peut être une solution ou une résolution que nous devons prendre, ou un engagement que nous devons faire. Ce peut être une situation matérielle, économique, professionnelle, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais ce que je pourrais vous citer encore de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés à un moment ou à un autre. Alors, lorsque nous sommes confrontés à une épine, vous savez qu'une épine, ça agace. Hein ? Ouais, c'est agaçant, une épine. Lorsque nous sommes confrontés à une question, à un questionnement, à une situation qui nous rend perplexe et on se dit, mais que je me tourne de droite ou de gauche, en avant ou en arrière, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, comme on l'a dit, alors je ne le trouve pas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Que ce soit d'une souffrance ou un chagrin d'une nature ou d'une autre, ça peut toucher peut-être la vie des chrétiens concernant la purification ou la sanctification, ou lorsque nous nous bataillons avec un problème qui nous est propre et que nous n'arrivons pas à nous en tirer parce que le problème est retors, parce que finalement, eh bien, c'est ténu et tenace. Ce peut être le renoncement à quelque chose que Dieu nous demande, un péché d'orgueil, pourquoi pas, un problème qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, qui est un aiguillon comme une épine, telle que la jalousie, ou la situation d'un, je ne sais quoi, de la jalousie, ou de l'égoïsme, ou du mensonge, je ne sais quoi encore. Et que nous en arrivons épuisés, comme Pierre, après cette nuit de travail, où il n'avait rien pris, était revenu sur le rivage, et ils étaient épuisés, ces pêcheurs. Ils étaient rompus de fatigue. Ils étaient dans la lassitude, parce qu'ils s'imaginaient, et ils pouvaient s'imaginer décemment, que puisqu'ils n'avaient rien pris, il n'y aurait peut-être rien à manger ce jour-là. Pour eux, pour leur famille. Le commerce ne pouvait pas se faire. Les filets étaient vides. Et c'est souvent lorsque nous arrivons épuisés que nous sommes en train de nous donner encore un certain contentement, parce que vous avez remarqué avec moi, ils étaient en train de rafistoler ou rabibocher, comme vous le voulez, leur filet en se disant, on va y retourner, parce que c'est une nécessité d'y retourner la nuit suivante. Il n'y avait pas le choix. Alors ils sont arrivés épuisés, et après des luttes, après des combats, après des espérances, après des efforts, comme Pierre nous disant, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est là où l'homme touche, excusez-moi l'expression, c'est pas très beau, mais le bout du bout. Souvent, lorsque nous sommes au fond, mais je l'ai dit et je le répète, quelquefois il faut que nous touchions peut-être du bout du pied le fond pour remonter ensuite. C'est ça, hein? On n'aime pas descendre. On aime bien toujours remonter. Parce qu'en haut, il y a la lumière, en bas, c'est l'obscurité. Et on est enfermé dans nos angoisses, on est enfermé dans nos craintes, dans nos peurs, dans toutes sortes de choses semblables. Alors on dit, mais nous avons travaillé, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Nous sommes fatigués, reprendre le bateau, tout à nouveau mettre les voiles, et peut-être pousser sur les avirons pour aller chercher quoi? C'était... Pierre était un pêcheur, un matelot chevronné, il savait de quoi il parlait. Et ce... prédicateur de Nazareth, qu'est-ce qu'il s'entendait à la pêche, à donner des conseils à des véritables pêcheurs. C'est ça justement ce qui est troublant, hein. C'est que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que nous y fassions attention, parce qu'on se dit, celui-ci, son conseil, il ne connaît rien, alors il passera une autre fois. Et quelquefois, Dieu se sert de gens qui, en apparence, ne savent pas, ne connaissent pas, et ils vont nous donner le conseil de Dieu. Ça, c'est étonnant et c'est surprenant. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir quand même une oreille ouverte et un cœur quand même qui soit disposé. Alors, tous les efforts de Pierre et de ses compagnons, toutes ces résolutions, tout ça a été resté finalement, eh bien, vain. J'ajouterai que toute la parole de Dieu, c'est important, nous fournit des affirmations reposant sur des faits. Pourquoi la parole de Dieu est-elle un livre d'histoire? Et j'ajoute, et vous vous en doutez, d'histoire vraie. Parce que vécue, parce expérimentée dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et nous voyons que ça repose sur des faits accomplis particulièrement, et on va cibler davantage, sur Jésus, sur ses promesses, sur sa parole, et sur l'accomplissement de ce qu'il a dit et qu'il a fait. Et ça, ça change tout. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui disent, mais qui ne font pas, mais Jésus ne s'est jamais contenté de dire, il a fait et il a accompli. Alors ça repose là-dessus. Comme pour Pierre, qui est l'homme du visible. Oui, il a des yeux, il a des oreilles, il a une sensibilité à tout son environnement, c'est normal, c'est un homme. Il est comme nous, hein, et nous sommes comme lui, hein, en mettant les choses dans les deux sens. Alors c'est l'homme du visible, Pierre, et il va réagir à ce moment-là avec ce qu'il voit et ce qu'il ressent. C'est pourquoi il dira à Jésus, mais qu'est-ce que tu veux? Tu nous demandes d'aller encore, mais ça ne sert à rien, puisque de toute façon, nous, on connaît bien notre travail et on connaît bien notre lac. On sait qu'on ne pêche pas de poissons comme ça. Hein. C'est pas... Donc il ressent avec sa nature. Et la difficulté pour lui, comme pour nous, consiste que souvent les promesses divines ou les ordres de Dieu, parce que Dieu quelquefois nous donne des directives, vont à l'encontre des apparences et de nos sentiments que nous avons au fond de nous-mêmes. Et nous sommes troublés. On se dit, mais moi, ma logique d'homme me dit ceci. Et toi, Seigneur, tu me dis d'aller, de regarder dans notre direction. Alors nous sommes partagés à ce moment-là. C'est ce qui fait le doute. C'est ce qui fait que nous sommes partagés, nous sommes en dualité en disant, mais qu'est-ce que je dois écouter? Quel dois-je? Je veux bien croire à la parole de Dieu, je veux bien croire à la Bible, mais d'un autre côté, moi j'ai... Je sais de quoi je pense et je pense juste. Vous savez, il y a toujours l'adversaire qui est là pour nous confondre dans nos impressions. Elles sont quelquefois justes, mais elles sont quelquefois mauvaises. Pour troubler notre conscience qui manque de lumière, qui manque d'éclairage ou de perspicacité de ce que Dieu nous dit, parce que nous comprenons qu'en partie les promesses de Dieu. Et parfois, eh bien, nous sommes là à nous traîner sur le rivage, oui, alors que nous sommes appelés à aller en pleine eau, avec nos chutes, nos essais, nos échecs, qui nous amènent, eh bien, au découragement. Et ça, c'est tragique, et nous le voyons. C'est pourquoi il faut que il intervienne quelque chose d'autre dans notre vie. Et toutes ces chutes, tous ces échecs sont là pour nous accuser et nous dire avec une certaine subtilité que nous n'y arriverons pas ou que nous n'y arriverons jamais. Alors, ce n'est même pas la peine de lancer l'opération Dieu dans notre vie, l'opération foi, et de dire, bon, on en est là, ça n'ira pas plus loin. Vous écoutez bien la parole, hein, ce soir. Eh bien, c'est peut-être justement là où nous sommes interpellés en disant, mais comme Jésus le dira d'une manière admirable, il dira ceci, mais tout est possible à celui qui croit. Ne reste pas sur le rivage, ne reste pas à tripoter, là, tes filets, essayer de remettre un petit peu les choses en place, ça c'est ton travail d'homme, c'est vrai, mais moi j'ai quelque chose d'autre, j'ai quelque chose d'autre à t'amener, à te faire vivre. Et nous faisons face à ce moment-là dans les chutes, dans les échecs, dans tout ce brouhaha, cette confusion des flots sur lesquels nous ballottons d'un endroit à un autre, alors nous faisons face à deux réalités. Les choses que nous voyons, les choses que nous ressentons, que nous attendons, que nous connaissons humainement parlant, et celles qui nous sont cachées, qui sont cachées à nos yeux, à ce monde visible, mais qui néanmoins existe quand même. C'est quand on relit le texte. Jésus avait pris soin, finalement, de rassembler toute la foule. Quand sa barque est arrivée sur les bords du lac, Je relis, il nous est dit qu'il monta dans l'une des barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit sur la barque et de la barque il enseignait la foule. Donc, tous ces gens qui étaient là n'étaient pas restés sans avoir entendu certainement les paroles de Jésus. Et c'est là justement la grande confrontation. Il y a les réalités de ce que nous sommes dans ce monde avec ce que nous connaissons parfaitement ou presque parfaitement. Et puis la parole de Dieu qui avait déjà été semée. Il nous est bien dit que les gens venaient en foule pour écouter cette parole, y compris Pierre, y compris ses compagnons, certes fatigués, mais qui entendaient quand même. Et c'est à ce moment-là que Jésus leur a dit, mais il faut aller un peu plus loin, il ne faut pas rester là. Et vous savez, lorsque nous sommes appelés à aller un peu plus loin et que nous sommes accompagnés des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, du message de l'Évangile, ben vous pouvez vous dire que vous avez Jésus avec vous. Et vous allez pouvoir marcher sur les eaux. Vous allez pouvoir aller jusque dans les eaux profondes. Et là, Dieu va vous parler. Il va vous montrer des choses extraordinaires. C'est ça ce qui est important. Et là, il va nous conduire dans le monde invisible. Nous allons garder nos yeux et nos oreilles, et ce n'est pas elles qui vont fonctionner. C'est notre cœur. Parce qu'au fur et à mesure que nous sommes entretenus par la parole de Dieu, notre cœur va se remplir de foi. Et nous allons rentrer dans une autre dimension, le monde de l'invisible, le monde spirituel. Et pour voir Dieu agir en notre faveur, il faut tout simplement choisir. Il faut être capable de choisir, je le répète, de trancher, de décider nettement et de prendre position pour l'une ou l'autre des réalités. C'est pour cela que le prophète Élie disait cela au Mont Carmel, aux Israélites auxquels il s'adressait, « Mais jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Eh oui. Et le gros problème de l'homme, le gros problème même du croyant, c'est que quelquefois nous sommes dans une position où nous voulons les deux. « Seigneur, je veux bien l'anneau, mais je m'accroche quand même au rivage. » C'est dur, hein ? On n'apprendra jamais à nager si on l'a appris dans une piscine. Il faut aller au milieu de la piscine. Quand vous n'avez plus pied, c'est là que vous apprendrez à nager. On a tous cette réaction de sécurité de dire « Seigneur, j'y vais, mais je me cramponne. » Eh oui. Et vous savez, un maître nageur, hein, il va pousser. Il faut être confronté avec la situation. Et c'est à ce moment-là que se révèle la foi ou non. Il faut choisir. Qu'est-ce que je fais ? Et pour choisir, il faut surmonter nos peurs. Et le grand drame de l'humanité, le grand drame de l'homme, c'est parce que nous avons peur de l'inconnu. Nous avons peur de l'invisible, nous avons peur du surnaturel, du miraculeux, bien qu'il nous plairait tellement de toucher, finalement, le surnaturel, le miraculeux. On le demande à Dieu, « Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, exauce-moi. » Mais d'un autre côté, on se dit, « Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ?» Vous savez, le comment et le pourquoi, ce n'est pas notre affaire. C'est tout simplement notre affaire, c'est de dire tu crois ou tu ne crois pas. C'est encore une marche, un apprentissage. Alors à ce moment-là, nous devons prendre position pour l'une ou l'autre des réalités. Ce sera nos sens, y compris notre intelligence qui nous joue quelquefois des tours parce que notre raisonnement n'est pas toujours fiable, notre logique, ou alors ce sera la foi. Et en quoi ou en qui j'ai le plus confiance ? Est-ce que j'ai confiance dans les réalités que je vois ou est-ce que j'ai confiance dans ce Dieu de l'invisible ? Ça change tout à ce moment-là. Écoutez, vous avez l'histoire encore de Pierre qui nous est rapportée dans Matthieu. Je vais simplement donner cette petite histoire parce qu'il a bien appris la leçon, notre Pierre. Hein, il a quand même fait des expériences. Je relis par exemple le Matthieu au chapitre 14 et au verset 28, on le retrouve. Jésus marche sur la mer, là. C'est encore un autre récit, naturellement. Et Jésus dit à ses disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Toujours le gros problème. Pierre lui répondit, « Mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il lui dit, « Viens, Pierre. » Viens, Pierre sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il écria, « Mais Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus lui tendit la main et puis il l'a rattrapé. Vous savez que le Seigneur ne nous laisse pas couler. Il a compassion de notre faiblesse. Il ne va pas nous faire le reproche. « Ah, tu as manqué de foi !» Alors, va faire un petit tour là, dans le fond. Hein. Puis, tu remonteras bien un moment ou un autre. Non, Dieu est un Dieu qui connaît la faiblesse des hommes. Il connaît notre fragilité. Il connaît notre extrême sensibilité. Oui, humaine. Et Jésus lui tend la main. Heureusement que Jésus était là. Hein. Vous croyez que Dieu va nous laisser couler ? Oui. Mais dans la réalité, parce que vous me dites oui maintenant, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, après, écoutez, on va, après quelques mois, après quelques années, après peut-être des décennies de marche avec le Seigneur, est-ce que vous avez vu le Seigneur vous abandonner? Jamais, on ne sait plus là aujourd'hui. Il a toujours été là pour vous dire, mais n'aie pas peur, c'est moi, fais-moi confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est un miracle. Vous savez, c'est la foi qui croit, la foi qui obéit. Je vais vous raconter une petite histoire, simplement. Vous la connaissez, je la répète, mais elle peut être aussi intéressante pour ceux qui découvrent l'Évangile. C'est l'histoire d'un funambule. C'est du grand classique. Vous avez déjà vu, hein, soit dans un cirque ou dans la nature. Alors, à ce moment-là, on a placé un câble d'acier long de plusieurs dizaines de mètres au-dessus d'un précipice. Et il y en a qui sautent en élastique. Là, à l'époque, c'était encore le fil. Et puis, l'équilibriste va marcher plusieurs fois sur le filin et les spectateurs qui sont là en foule vont l'applaudir. Parce que c'est toujours, toujours étonnant de voir quelqu'un qui marche sur le fil. Hein. On dit le fil du rasoir, mais c'est quand même une vérité. Il faut quand même de la dextérité, alors quelquefois il a un balancier comme ça. Ou quelquefois il n'a rien du tout parce que c'est un champion. Et voilà qu'à un moment donné, il fait le tour, une fois, deux fois, il revient, etc. Et ça, les gens s'exclament en disant, mais c'est magnifique. Et à un moment donné, il fait un peu plus fort, il prend une brouette. Voilà. Il prend une brouette et puis il va la rouler, finalement, en équilibre sur le fil. Il va faire plusieurs allers-retours, comme ça. Et pour compliquer l'exploit, eh bien, il va demander à ce que l'on charge la brouette, tout simplement, la remplir de pierre et... faire exactement la même démonstration, et là c'est un tonnerre d'applaudissements, parce qu'on se dit, on voit le fil qui... Et le... c'est là, c'est pour ça qu'il faut être souple, hein. C'est que tout le monde danse, en quelque sorte, le fil, l'équilibriste, et puis le poids, naturellement, que représentent les pierres dans la brouette. Hein. Alors, à ce moment-là, le funambule va interpeller tout simplement la foule, et il va dire ceci, « Croyez-vous que je puisse transporter un homme dans la brouette. Ouais. Bah oui, parce que quand il a fait la démonstration comme ça, ça semble assez sécurisant quand vous avez les pieds sur terre, quand vous êtes sur le rivage. Mais quand il s'agit d'aller en plein air, pas en plein eau, mais en plein air, c'est aussi dangereux le plein air que la plein eau. Hein. C'est des éléments dans lesquels les poissons sont à l'aise en bas et puis les oiseaux sont à l'aise en haut. Ça c'est sûr, mais nous c'est autre chose. Alors il va poser la question, est-ce que vous croyez que je suis capable de faire la chose? Et juste devant lui, alors qu'il était au bout du fil, il y avait un homme qui était surexcité par l'exploit naturellement et par la performance. Et il s'exclame, bien sûr c'est formidable, c'est extraordinaire, moi je crois que vous êtes capable de le faire. Et aussitôt, l'équilibriste de lui répondre tout simplement ceci, alors monsieur, puisque vous avez dit que vous le croyez, eh bien... Puisque vous croyez si fort que cela est possible, moi je vous invite tout simplement à monter dans ma brouette et je vous fais traverser le précipice. Waouh ! Ça, ça change un peu les donnes. Vous savez ce qu'il a fait, ce monsieur ? Un homme de foi. Je ne juge pas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait moi-même. Nous voyons que tout simplement, ce monsieur est devenu tout blême. Il est parti en courant. Il a laissé tout le monde, mais pour nous montrer quelque chose d'une véritable réalité, c'est que la conclusion serait celle-ci, la morale de l'histoire, croire ce n'est pas de le dire, mais de le vivre, c'est-à-dire de faire confiance simplement et de faire confiance totalement. Voilà. Et Pierre en est à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reste sur le rivage? Ou alors, il va avancer en plein eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'attitude de l'homme de foi, le croyant, nous pouvons appeler de cette manière, nous donne une leçon de ce qu'est la vraie foi. Parce que ce n'est pas le fait de le dire. Vous pouvez questionner des milliers de gens autour de nous, des gens qui se diront croyants, appartenant à une dénomination religieuse ou autre. Ils vous diront « moi je crois ». Et on n'a pas besoin d'être religieux pour avoir la foi. Hein. Vous avez des doctrines, des philosophies humanistes, où les gens vous disent qu'ils sont prêts à donner leur vie, ils ont la foi, hein, parce que dans leur théologie, ou dans leur théorie, ou dans leur philosophie, Alors la véritable foi, eh bien c'est celle qui jette son filet dans l'immensité des possibilités infinies de Dieu. Voilà. Et c'est ça, c'est une vue de l'esprit, vous allez me dire. C'est à comprendre. Celui qui est capable de prendre son filet ou de prendre ses filets, parce que Jésus avait parlé au pluriel, eh bien, de pouvoir comprendre, intégrer à l'intérieur lui-même qu'il y a des possibilités infinies dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu'il nous réserve et dans ce qu'il veut nous donner. Je voudrais quand même ajouter ceci, c'est que Dieu est beaucoup plus pressé de nous bénir que nous de recevoir sa bénédiction. Autrement, on courrait. Or, on s'aperçoit qu'on s'approche trop souvent timidement du Seigneur. Seigneur, est-ce que tu peux, est-ce que tu veux, et ceci et cela, on commence à discuter. Dans les grandes histoires, les grandes aventures de foi, de cette belle foi que nous découvrons dans l'Évangile, la Cananéenne, Jaïrus, Zachée, et puis les uns et les autres, le centenier par exemple, on s'aperçoit que ce sont des gens qui ont une foi comme la foi des enfants. Ils ne se posent aucune question. Puisque Jésus l'a dit, alors ça doit être possible. Et on voit des résultats qui sont à la dimension de ce qu'ils croient naturellement. On parle de miracles. Et ça va même jusqu'à extasier Jésus et de s'exprimer sur au moins deux cas. Quand il ira même en Israël, le pays de la foi, le pays où on cultive la foi, le pays où on grandit dans la foi, il ira même en Israël, je n'ai même pas trouvé cette qualité de foi en parlant de deux étrangers qui ont ramassé finalement l'une les miettes, vous connaissez l'histoire, la cananéenne, et puis le centenier qui a dit, mais c'est même pas la peine de te déplacer, hein. C'est sur ta parole, moi je crois que Jésus lui avait dit, mais tu peux aller, ton serviteur est guéri, hein, pas de problème. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que vous savez, si nous jetons le filet, plus précisément, si nous avons encore l'audace de jeter nos filets, nous allons ramener des pêches miraculeuses. L'histoire, c'est ça. Hein. Bon, l'histoire des poissons, on est d'accord. Mais il y a plus que des poissons avec le Seigneur. Il y a plus que cela. Alors, voyez la réponse et voyez la solution. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. Qu'est-ce que nous allons faire de la parole de Dieu ce soir? Pour ceux qui vont entendre cette parole, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette parole? C'est une belle histoire, tout simplement une belle histoire de l'Évangile, une belle histoire, finalement, que nous avons là et qui nous parle de Jésus. Et puis nous allons la ranger en disant, bien, si un jour ça peut me servir, pour la restituer peut-être dans une conversation, alors si ce n'est que ça, ça n'a pas une grande importance. Et si c'est pour moi, si c'est pour mon besoin d'aujourd'hui, si je veux faire l'expérience, si j'ai l'audace de quitter le rivage et puis de m'en aller en pleine eau, parce que ça me concerne et parce que Jésus me parle, ouais. Même s'il parle à travers un homme, avec des paroles toutes simples, et il me parle. Et c'est pour moi, c'est dans mon problème, dans ma situation. J'ai prié cette semaine, et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as pour moi à me dire? Qu'est-ce que tu veux faire pour moi? Quelle réponse? Je t'attends, Seigneur. Eh bien, peut-être que vous avez la réponse ce soir. Et qu'est-ce que nous allons faire de cette parole? Qu'est-ce que nous allons en faire? Oui, Seigneur, il y a la réalité de ma souffrance, mais sur ta parole, puisque tu me dis, alors moi, je fais confiance à ta parole, et puis on va voir là, le reste. Ce qui signifie que malgré les échecs, malgré le temps qui passe, et malgré les filets que nous avons jetés et ramenés désespérément vides, malgré notre lassitude, malgré les échecs, malgré les efforts infructueux, le découragement et tout le reste qui est négatif, hein, parce que c'est toi, Seigneur, qui me le dis, qui me l'ordonne, alors, pour cette fois, je vais faire avec toi, Seigneur, je t'associe. Est-ce que nous voulons associer le Seigneur à notre problème? Parce qu'on l'associe, mais on l'associe qu'un petit peu. Vous savez, c'est comme les actionnaires, hein, on a des parts. Alors, Seigneur, moi je garde 85%, tu en gardes 15%. Ça fait le compte, hein? Je ne me trompe pas. Parce qu'on veut rester, parce qu'un actionnaire majoritaire, c'est toujours lui qui a le pilotage. Hein. C'est lui qui peut naturellement conduire, hein, les choses, l'entreprise, et rester maître de son entreprise. Mais si nous faisons le contraire, Seigneur, je vais oser le dire, hein. Seigneur, tu prends 99,99% tout le reste, et moi je garde vraiment rien du tout. Donc tu prends 100%. Et si on laissait faire, si on associait le Seigneur à tout cela, Seigneur, je ne m'inquiète plus de rien, je ne pense plus à rien. Je te fais confiance. C'est toi, je te remets mon problème et tu l'as entre tes mains. C'est toi qui vas le résoudre et c'est toi qui vas le traiter. Complètement et totalement, à 100%, Seigneur, tu es mon associé. Tu montes dans ma barque, hein. Et il vaut mieux, hein, parce que ils sont allés avec Jésus dans la barque, hein. Il a remarqué, Jésus a prêché un peu de temps sur le rivage, et à un moment donné, une fois qu'il a eu terminé de donner la parole à cette foule qui avait faim, non pas de poisson, mais de faim de l'âme, de la parole de Dieu, à un moment donné, il a dit, maintenant, avance en pleine eau. Et ils sont allés, et Jésus était dedans, hein. Et non seulement ils ont jeté le filet, c'est quand même dommage, hein. C'est qu'il y en avait tellement dans le filet, le seul filet qui était en action, en fonctionnement, c'est qu'ils ont été obligés d'appeler les autres barques qui étaient autour, hein. Imaginez-vous ce que ça aurait été s'ils avaient joué à 100% le jeu. Et imaginons-nous ce que ça pourrait être quand on joue à 100% le jeu de Dieu, le challenge. Quand on, finalement, eh bien, on prend Dieu au mot. C'est extraordinaire. Ça va? Oui? Vous ne coulez pas?
Non.
Bon, c'est bien, c'est le principal. On va arriver bientôt au but, hein. On va y arriver, hein. Seigneur, je t'associe complètement. Alors, je vais te demander une chose ce soir. Tu montes dans ma barque. Tu montes dans ma barque et tu me parles et moi, je t'obéirai. L'acte de foi est un engagement dont Jésus est le centre. Ça, il ne faut pas l'oublier, je vais le marteler. Jésus est le centre et nous ne discutons pas, nous ne tergiversons pas. C'est une volonté de cœur à mettre en pratique ce que nous croyons dans ce que Dieu nous dit, et c'est lui qui va l'accomplir, c'est pas nous. C'est lui qui va l'accomplir réellement. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Jamais ils avaient vu ça, hein. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Seigneur, arrête, tu me bénis trop. Arrête, je peux plus. Non mais, c'est vrai. Seigneur, quoique je voudrais dire quelque chose, peut-être l'avez-vous vécu, mais ce sont des instants sublimes et des instants fort rares où on se souvient de certaines bénédictions qui n'étaient pas des bénédictions matérialistes, mais spirituelles, où à un moment, on était transporté dans quelque chose qui dépassait notre entendement et notre compréhension. Moi, ça m'est arrivé une fois. Et je me dis, mais Seigneur, je redescends plus, c'est beau. Hein. Et après, il va falloir descendre. Mais, ça a été vécu. Ah oui, je m'en souviendrai toujours. Hein. Si je vous disais que c'était au printemps 1972, dans ma petite chambre chez mes parents, à 6h du matin jusqu'à 8h30, quelque chose d'extraordinaire. Ah, formidable. Le ciel était ouvert. J'aurais bien voulu rester. Mais ce n'est pas possible. Je crois que tout cela a été donné pour dire « Je suis ton Dieu, je suis ton sauveur ». C'était au moment de ma conversion. Et puis, il y avait aussi certainement un encouragement, parce qu'il y avait un appel au ministère. Et quand il y a un appel au ministère, il y a comme pour l'histoire de l'apôtre Paul. Tu verras ce que cet homme aura à souffrir pour la cause de mon nom. Je ne suis pas Paul. Je n'ai pas vécu ce que Paul a vécu. Et toujours est-il que j'ai eu une petite miette. Ouh ! Oh, non, je voudrais quand même glorifier le Seigneur. Seigneur a envoyé la pluie. Et c'était quelque chose de sublime. Dieu, je me souviens, je pourrais vous raconter l'histoire comme si elle s'était passée ce matin. Parce qu'on n'oublie jamais ça. Seigneur, extraordinaire et formidable. Moi, je crois au ciel. Je peux vous dire que dans le ciel, on aura vite oublié ce qui se passe sur la terre. Ce sera bon. Ce sera merveilleux. Seigneur, je ne veux pas jeter mon filet. Je veux vraiment apprendre à jeter mes filets. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous remplisse de son Saint-Esprit. Que Dieu nous remplisse de la plénitude de foi dans sa parole. Et nous allons saisir sa grâce, ses faveurs et son immense amour. Nous allons prier quelques instants. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que c'est vrai. Tu nous l'as rappelé ce soir. C'est souvent dans les choses banales de la vie que tu nous parles, que tu t'adresses à nous, Seigneur. Et si nous avons une réaction de foi, la bonne réaction, alors tu nous confieras de plus grandes choses. Et ça commence souvent, Seigneur, par les petites choses. Je commence par un filet, et puis un jour j'ai compris qu'un filet, ce n'est pas suffisant. Ce sont tous mes filets qui doivent être jetés dans les eaux profondes. Et nous voulons te remercier pour ça. Je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous apprends également, en effet, Seigneur, eh bien, à quitter nos rivages de sécurité pour aller en te suivant, en suivant ta parole, en t'obéissant à ta parole, aller là où il y a vraiment des trésors, aller là où il y a, eh bien, Seigneur, une pêche miraculeuse. Et nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu veux nous apprendre à cela. Et puis, Seigneur, c'est vrai que nous ne saurons jamais ce que veut dire miracle. Si nous n'osons pas, si nous n'avons pas l'audace de dire, eh bien, Seigneur, parce que c'est toi qui le dis, je t'obéis maintenant. Je crois et je t'obéis. Alors, Seigneur, tu bénis mes amis, ceux qui entendent ta parole en cet instant, ceux qui vont l'entendre également dans le temps, qui ouvriront la parole de Dieu, qui ouvriront la Bible, qui liront, qui recevront le beau message de la puissance de Dieu. Tu les bénis, Seigneur. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, conduis-nous en pleine eau. Fais-nous avancer, Seigneur, par-delà tous les rivages sur lesquels nous nous confions, sur lesquels et auxquels nous nous accrochons, pour véritablement apprendre à nous laisser porter par la foi. Et nous voulons te remercier, parce que c'est bien ce que tu as voulu nous dire, que ta bénédiction repose sur eux, tous mes amis, qu'elle repose sur ta parole, et qu'ainsi, Seigneur, notre prière ne reste pas, eh bien, comme un filet vide, et que notre prière revienne, Seigneur, chargée, surchargée de bénédictions, que, Seigneur, nos filets reviennent pleins à craquer, Seigneur, pour que nous puissions le partager avec les autres. Merci, Jésus. Amen. Amen.